Bonjour à tous, bienvenue dans En Spectateur, 19e du nom. Alors cette semaine, je vous propose de découvrir un spectacle mis en scène par Quentin Rioual, adaptation du roman Matin et Soir de Yon Fosse, à découvrir au Théâtre Cantor les 5, 6, 7 et 9 février prochains. Sortez vos agendas. Mais d'abord, branchez vos casques, sortez vos platines, vous avez 6 heures. Oui, vous avez 6 heures, c'est le thème de la 3e édition du concours Frisson, concours de création radiophonique organisé par Transistor. Alors si vous êtes inspiré, si vous avez envie de produire une œuvre sonore de 5 minutes environ, vous avez jusqu'au 23 février pour nous l'envoyer à Transistor, à gagner un casque audio Marshall et des places de théâtre pour aller voir des pièces de nos partenaires. Alors je ne sais pas s'il compte participer au concours Frisson et se lancer dans la création musicale. En tous les cas, les 5, 6, 7 et 9 février, ils auront certainement autre chose à faire que du montage audio. Ils seront en Théâtre Cantor, comme vous, j'espère, chers auditeurs, pour la pièce Matin et Soir. Eux, ce sont Camille Saada, comédienne, et Thomas Bruckert, assistants à la mise en scène, qui ont pris place derrière le micro dans Spectateur. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Matin et Soir de Yon Fosse, c'est l'histoire de Johannes, un homme simple, un homme à l'état brut, dans son essence d'homme qui aime, croit, regarde, constate, et de sa vie, dépeuplée matin et soir. Chaque matin, Johannes se lève, il boit une bonne tasse de café, il mange une tartine, puis il fume une cigarette, et il se demande que faire de sa journée. Alors, comme toujours, il part pêcher, comme il le faisait avant, quand il travaillait, quand il était pêcheur. Et alors, me direz-vous, drôle de résumé, c'est tout ? Oui, c'est ainsi, matin et soir, même si un pêcheur qui s'appelle Johannes, cela n'a déjà rien d'anodin, et vous vous doutez qu'il va bien se passer quelque chose dans la vie de cet homme ordinaire. Un matin, c'est le soir, c'est l'hiver et l'été à tour de rôle et tout devient étrange, la tartine, le café, le fait de se réveiller, d'être là, d'être tout simplement. Pourtant, tout est comme toujours, mais tout est un petit peu décalé. Sur la grève, par exemple, Johannes rencontre son ami Peter. Et lorsque l'obscurité tombe brusquement, sa femme Erna vient à sa rencontre et pourtant, Peter et Erna sont morts depuis bien longtemps. Alors, rien que ça, ce résumé, ça devrait vous donner envie, chers auditeurs, d'aller voir l'adaptation que vous propose de ce roman Matin et Soir de Yon Fosse, eh bien, Quentin Rioual et son équipe. Alors, depuis la traduction de Terje Sinding, signalons-le. Alors, surtout, vous avez certainement envie d'en savoir plus. Et moi, souvent, depuis que je prépare ces émissions, et même avant, j'ai toujours envie d'en savoir plus sur la genèse des spectacles et savoir pourquoi une femme, un homme, une équipe choisit un sujet, un thème, un auteur plutôt qu'un autre. Alors, avant de rentrer vraiment dans la pièce, matin et soir, j'aimerais que vous me disiez un peu comment est arrivé dans votre vie Yon Fosse et ce qui vous marque particulièrement dans matin et soir dont je viens de faire rapidement le résumé. Je sais pas, peut-être Thomas.
Mais je crois que c'est d'abord Quentin, en fait, c'est de Quentin que le projet est venu.
Le metteur en scène,
ouais. Quentin Rioual. Ouais. Quentin Rioual, parce que il a beaucoup travaillé sur le théâtre symboliste, sur toute cette mouvance et sur les héritiers de ce qu'on appelle le théâtre symboliste, qui est né à la fin du 19e, et héritiers dont Yon Fosse fait partie aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il est commun de dire.
C'est l'étiquette qu'on lui donne, quoi.
Oui, c'est une filiation, quoi. Donc ça vient surtout de lui, c'est lui qui nous a présenté ce texte, c'est lui qui nous a réunis, qui nous en a parlé avec beaucoup de passion et puis avec un beau projet. Donc
et toi, tu connaissais avant Yon Fosse et sa dramaturgie ?
Je connaissais Yon Fosse de nom, simplement, et j'avais seulement entendu les spectacles qui avaient été mis en scène, comme ça j'avais entendu parler de Yon Fosse, mais j'avais jamais lu Yon Fosse, ni son théâtre, parce que c'est quand même principalement, je crois, un écrivain de théâtre. Ni son théâtre, ni sa poésie, ni ses romans.
Alors il est connu surtout pour ça, et ce qui est intéressant c'est que vous décidez d'adapter un roman forcément.
Oui.
Et toi Camille, absolument. Alors tu l'avais lu ce roman ?
Alors moi j'avais pas lu le roman avant que Quentin m'en ait parlé. C'est vrai que je connaissais Yon Fosse pareil, de nom, et effectivement plus pour son théâtre que pour ses romans. Quentin est arrivé avec ce projet qu'il avait investi d'une manière extraordinaire et du coup ça donne envie forcément de découvrir.
Et après tu l'as lu.
Et j'ai lu le roman le soir même que Quentin m'avait parlé de ça. Et c'était drôle parce que Quentin m'avait dit quand j'ai lu ce roman, j'attendais pas la fin. Et moi, à la fin, je l'ai vu dès le début. Et du coup, ça m'a fait rire et ça m'a donné envie d'entrer là-dedans, quoi, avec Quentin. Et voilà.
C'est ça qui t'a marqué ?
Oui, tout à fait.
Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué, Thomas, dans ce livre ou plus largement dans le projet tel que vous le montez sous l'égide de Quentin?
Alors dans le livre, je sais pas, j'étais à la fois entre la réaction de Quentin et la réaction de Camille, qui est que on arrive à la fin du livre et on se dit ah mais en fait oui, c'était ça quoi, comment je l'ai pas vu, il risque qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais en même temps, on se le dit jamais, on se le formule jamais vraiment, et pourtant c'est quand même là. D'ailleurs, tout le travail de mise en scène de Quentin vise à reproduire ce genre d'effet, en fait, qui est qu'on a quelque chose en tête ou au fond de soi, qu'on perçoit quelque chose, et qu'on n'arrive pas du tout à ce que ça se formule clairement dans la tête.
Et finalement, on se retrouve dans la même position que Johannes, du début à la fin, voilà. À se dire qu'il y a quelque chose qui est étrange, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est.
Donc vous ménagez bien le suspense, c'est bien. Alors on a envie de savoir comment ça finit, forcément, à vous entendre. Moi j'avais envie de savoir comment ça a commencé. Maintenant on va aller justement vers comment ça, pour prendre un pronom cher à Michel Zintor, comment ça va finir, puisque finalement ce spectacle, c'est un spectacle sur la vie, mais aussi, surtout, la mort, puisqu'on a dit, il y a les deux personnages, Erna et Peter, qui hantent la vie de Johannes, à part ce matin particulier, et qui sont morts, qui reviennent. Et justement, il y a un lien avec le théâtre, parce que peut-être que l'essence du théâtre, ce serait ça, de toucher à la mort. Est-ce que c'est pas un peu ça, finalement, l'essence du théâtre, nous déshabituer à la vie, se déshabituer de la vie?
Je sais pas. Je vais m'en sortir en citant quelqu'un.
Ouais. Ça marche toujours.
Oui, c'est Jean-Loup Rivière, donc c'est notre professeur de théâtre, qui dans un, je crois que c'est dans la présentation, enfin la préface des Écrits sur le théâtre de Barthes, parce que c'est lui qui a rassemblé les textes et qui a fait l'édition, dit que le théâtre est, je sais plus très bien, je cite de mémoire, mais il dit le théâtre est une expérience vivante dans la mesure où il nous montre la trame négative de la vie et il nous apprend en fait à, il dit, il nous apprend à être adulte parce que en montrant la vie, il montre aussi le creux, quoi, son creux qui est la mort.
Et là, c'est ça ce qui joue Camille, parce que Johannes, un matin, il regarde sa vie et il se demande s'il est vraiment en train de vivre et pourquoi ça se passe comme ça.
Absolument.
Ouais. Et donc, il y a bien un rapport avec la mort. Alors, tu as une petite citation aussi, comme
non,
Thomas.
Non, je n'ai pas de citation sous le coude comme ça, mais.
Alors, moi, j'en ai une tirée de votre dossier de presse, donc qui est peut-être signée Quentin Rioual. Une très belle phrase, moi, j'ai trouvé. Le théâtre ne vaut que lorsque doit se dire le dernier mot. C'est ça qui joue dans votre adaptation de Matin et Soir.
Absolument, absolument. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ressenti pendant toutes les répétitions et dans les directives de Quentin, parce que chaque mot doit être prononcé comme si c'était le dernier. Et c'est quelque chose avec lequel on a eu beaucoup de mal au début, ne serait-ce que quand on pose une question, parce que quand on pose une question, forcément on la pose comme s'il y avait quelque chose qui allait venir ensuite. Et ce travail-là de dire chaque mot comme si c'était le dernier, je pense que ça a été extrêmement compliqué, mais c'était tellement... une fois qu'on y arrive, ça fait sens, quoi, vraiment.
Alors quand on t'entend parler comme ça et dire chaque mot comme si c'était le dernier, il n'y a pas un côté un peu pathétique à ça?
Non. Pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus technique finalement que... Voilà, c'est technique et c'est, ça s'appelle fermer la phrase. Et alors vraiment, pathétique, je pense pas, je pense que c'est tout le contraire. J'sais
oui,
pas...
bah, tout le travail a été, je crois, de...
C'est le risque finalement dans cette pièce, de tomber dans
voilà,
ce travail.
Voilà, tout le travail a été de disons, s'il y a du pathétique, disons qu'il vient doucement et puis pas à grand renfort, il vient délicatement parce que il arrive tout seul, mais de ne jamais ne jamais forcer le pathétique, parce que, et d'ailleurs c'est un piège quand il suffit de lire le roman de Jon Foss et tout de suite on est imprégné d'un climat, et il y a une partie du travail qui a consisté quand même à se défaire un peu de ce climat que le texte charrie et à pas tomber dedans trop facilement.
Alors justement, on va pas lire le texte de Jon Foss, mais on va l'écouter juste 5 minutes. « C'est effrayant là-bas, dit Johannes. Maintenant les mots vont disparaître, dit Peter, et la voix de Peter est si ferme. » Alors je coupe un petit peu pour ne pas gâcher le suspense dont on parlait tout à l'heure. Et j'en viens au personnage de Sig, qui lève les yeux, et elle voit des nuages blancs dans le ciel, et elle voit la mer, aujourd'hui si calme, briller d'un éclat bleu. Et Sig se dit « Toi alors, papa Johannes, toi alors, papa Johannes. » Alors, cet extrait, pour faire le lien entre le côté lien avec la mort du théâtre de Jon Foss et là, de son roman, et un extrait qui se termine, puisque donc c'est la fin du roman, sur ce ciel bleu, sur cette mer aussi, le bleu mélangé ainsi, et finalement sur le paysage, puisque le paysage et les éléments dans le roman, ça joue un grand rôle. Évidemment, symbolique, tu en parlais tout à l'heure, la dramaturgie.
Plus que symbolique, même. Enfin, je veux dire, parlais tout à l'heure de climat, mais je crois que ils ont vraiment une fonction agissante qui est de.
C'est un acteur à part entière.
Oui, c'est un environnement actif, quoi, qui transpire, qui imprègne les choses, etc., etc.
Et Johannes, il a l'air d'être un petit peu perdu entre ces grandes forces que sont le ciel, la mer, du côté de la Baltique. Et cette atmosphère, elle se dégage magnifiquement sur votre affiche. Alors, je tenais à faire une petite parenthèse pour vous dire que votre affiche est magnifique. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu des comme ça, donc je sais pas qui a eu l'idée de prendre ce magnifique tableau de James McNeill Whistler.
C'est Paul.
Je crois que
c'est Paul qui s'occupe de la dramaturgie picturale, ouais. Et qui a choisi
Paul
Ruellan, qui nous a proposé des tableaux au cours d'une séance comme ça de répétition et on a choisi ensemble, mais c'est lui qui s'est occupé de cet aspect-là de la création.
Donc si vous voulez aller voir dans l'original, c'est Mer et pluie en 1865, donc James McNeill Whistler, et c'est vraiment un magnifique tableau. Et je trouve que, je pense vraiment, alors je le dis comme ça, elle donne vraiment bien l'atmosphère de ce que j'ai pu percevoir du roman que je n'ai pas lu, hein, délai trop court on va dire, mais ça donne bien l'atmosphère et puis de votre pièce aussi. Mais il y a un petit problème, c'est qu'évidemment, sur scène en Théâtre Contor, on n'est pas sur les bords de la Baltique. Alors, comment rendre ce côté grandeur des éléments et le côté perdu de Johannes au milieu de tout ça? Ça, c'est une question de scénographie assez importante. Parce que quand on voit votre affiche, on s'attend à quelque chose. Hein.
Thomas, alors, d'un point de vue...
Camille,
du coup. D'un point de vue du jeu, en fait, effectivement, ça a été une question très importante. On a travaillé beaucoup sur Quentin et Thomas ont insisté sur le fait qu'on voit, nous en tant que comédiens, ces paysages dans nos têtes, des paysages très précis.
C'était quoi comme paysage alors?
Et ben, c'était des paysages donc, qui ont été d'abord inspirés par ces tableaux que Paul nous a présentés, mais qui ensuite devaient être construits par nous-mêmes. Pas forcément des paysages, je pense que Adrien en jouant Johannes a dû voir la mer, mais moi personnellement en jouant Erna, j'étais à la maison, donc je voyais la maison. Et c'est amusant qu'on parle de ça parce que au cours de la dernière répétition, on a fait un exercice très intéressant où Quentin et Thomas nous ont obligés à s'asseoir sur une chaise et à décrire extrêmement précisément notre environnement, ce que Thomas a appelé tout à l'heure, je trouve très justement, l'environnement actif, et donc de décrire, la table est ici, moi je marche sur un chemin qui est de cette couleur, etc. Et donc voilà, ça c'était très important du point de vue du jeu, c'est sûr.
Environnement actif, parce qu'évidemment, vous n'avez pas sorti des grandes toiles comme au 19e siècle avec les tableaux derrière.
Oui.
Mais une scénographie assez épurée, si j'ai bien compris.
Assez épurée, oui. Ouais.
C'est justement un choix assez pertinent, justement, pour donner cette impression de.
Je crois,
de
oui,
solitude.
Parce que bon, le seul moyen qu'on ait pour recréer de l'atmosphère, en l'occurrence, reste la parole et puis la lumière. Et je crois que c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Sur le jeu d'acteur et sur la création lumière.
Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais du côté symbolique de l'écriture de Jon Foss. Whistler, c'est pas un hasard, c'est un peintre américain qui est aussi symboliste et qui a été lié à l'impressionnisme. Forcément, on s'attend à ça. On attend à ce que votre pièce, elle soit une pièce quasi impressionniste. À tort ou à raison?
Un peu des deux. Un peu des deux. On avait commencé l'émission en disant qu'il y avait une filiation. Alors, je sais pas, par exemple, je sais pas si on peut appeler Jon Foss, je sais pas comment on l'appelle, je sais pas si on peut l'appeler symboliste.
Oui, si
mais on peut dire
il est
travaillé par des procédés symbolistes, par des procédés impressionnistes. Ça, c'est sûr.
Alors, tout à l'heure, Camille, tu parlais d'environnement actif. Mm-hmm. Je vais te parler de quelque chose d'autre qui est actif dans la pièce, c'est le silence. Parce qu'il y a la mer. Il y a le ciel dans le roman Matin et Soir, mais il y a aussi le silence qui est omniprésent dans la vie de Johannes. On a
absolument
vu pourquoi. Et dans le dossier de presse que j'ai lu, il y a un long passage où vous reproduisez le texte de Maeterlinck, Trésor des humbles. Et justement, il parle de ça, du silence actif. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça et parler plus largement de la place du silence dans la pièce, parce que je crois qu'elle est très importante.
Bien sûr. Alors, elle est très importante. J'ai sûrement un point de vue un peu spécifique sur le sujet, parce que je joue un personnage qui ne parle pas, et qui pourtant est là pendant près d'une heure. Le silence, effectivement. Alors, actif après, parce que... Alors, d'un point de vue vraiment technique pour le comédien, parce que je suis assise là et que la question, c'est de savoir est-ce que pendant ce temps-là, moi, j'écoute ce qui se passe sur scène, est-ce que je suis en train de me concentrer pour attendre la première réplique. Donc, ça, c'est une question qu'on se pose et à laquelle on n'a pas fini de répondre parce qu'une heure, c'est long.
Acteur ou spectateur.
C'est ça, oui. Exactement. Et je pense qu'évidemment, la question, c'est toujours la même chose. C'est un peu des deux. Mais voilà. Donc ça, c'est d'un point de vue vraiment du jeu. Après, pour ce qui est peut-être de la construction des personnages, les silences sont effectivement... c'est quelque chose de crucial dans cette pièce pour tous parce que... Alors, je ne veux pas trop m'avancer, donc je vais essayer d'être prudente. Mais
n'avance suspense, toujours. Oui.
Voilà, parce que c'est effectivement, ça construit cet imaginaire de Johannes et que du coup, il faut absolument les ménager et les couper au bon moment.
Donc. Silence et d'or, et j'ai envie de te lancer, Thomas, sur une petite citation d'un Norvégien. Donc, je vais peut-être écorcher le prénom, puisque je ne fais pas élever un Norvégien, mais c'est de Tarjei Vesaas qui disait « À qui parlons-nous lorsque nous nous taisons ?» C'est un peu ça qui se joue aussi dans... dans la oui. pièce, pour rejoindre ce que disait Camille.
Et oui, et là, je crois que...
pas de répondre. Mais...
Non, mais si, c'est intéressant, parce qu'en plus, étant donné que bon, la pièce est quand même raconte, en fait, là, une journée, et se concentre autour d'un personnage qui est Johannes, qui, la plupart du temps, parle seul, pour répondre à la question « À qui parlons-nous lorsque nous nous taisons ?» Nous, on a essayé d'y répondre en disant bah, « Johannes, en tout cas, quand il se tait, il parle à lui-même. » Et ce qu'on voulait, en travaillant les silences, c'était que le silence devienne l'endroit où mute une phrase, où se construit mentalement une proposition, et que cela, on le voit. Et de toute façon, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce qui, dans le silence, se prépare, va se préparer, bon, que ce soit parfois déceptif, parfois que ça arrive plus vite. Enfin voilà, cet endroit un peu chaotique du silence où on sent que arrive quelque chose et qui va pousser, justifier ou donner raison d'être à une réplique, quoi, ou à une phrase, une...
Alors, du coup, on le devine à vous écouter tous les deux. Et j'avoue que j'ai un petit peu triché, puisque donc, j'ai lu les notes de répétition que tu as prises, Thomas. Mais plus que dans n'importe quelle pièce, là, le côté du langage du corps, il est encore plus accentué. Puisque justement, il y a cette omniprésence du silence et cette volonté de faire signifier chaque mot. Il faut aussi faire signifier chaque geste. Et ça, je crois, Camille, que ça a été un grand travail aussi.
Absolument, oui. Ça a été un grand travail... c'était pas facile et c'est vrai qu'on a appris et c'est là que le travail de Quentin Riwal était extrêmement intéressant et vraiment très très construit, c'est qu'on a vraiment senti, nous en tant que comédiens, la progression dans les exercices qu'on nous a fait travailler, et on a vraiment commencé donc au cours du mois de septembre et octobre avec des exercices donc physiques, corporels, où on apprenait à prendre conscience de chaque endroit de notre corps, et ensuite c'est un travail, ça qui est un travail de fond et qui vraiment est très important ensuite quand on passe au plateau.
Alors ça, c'est intéressant, justement, ce travail en amont, et le résultat, le 5, 6, 7 et 9 février, c'est voilà. Quoi concrètement ? À quoi ça vous mène ? Quel est le côté, voilà, ces exercices sur le corps, ça renforce quoi dans la pièce ?
Dans la pièce, je vais répondre encore une fois, de mon humble point de vue, oui. Nous, ça... c'est ce qu'on appelle souvent la présence du comédien. Ça, c'est oui. Quelque chose qui est un peu indéfinissable. Je pense que moi, j'ai senti au cours de ce travail que finalement, on travaillait sur cette présence avec ce travail corporel. Après, d'un point de vue du point de vue du spectateur, je ne vais pas me risquer à avancer une réponse, mais je pense que ça tient de ça, quoi.
Alors, dans tes notes, Thomas, il y a cette phrase, puisque tout à l'heure, j'ai cité Quentin, je peux bien te citer maintenant. Avec le théâtre, apprendre que toucher, ce n'est pas rien.
Oui, ça répond un peu à la question que tu viens de poser à Camille, je pense, ouais. Qui est que... Bon, d'abord, les exercices ont été faits, je dirais, pour deux principales raisons, pour que les comédiens apprennent à maîtriser vraiment chaque moindre mouvement, et aussi pour qu'ils se rendent compte que... Enfin, c'est, en fait, c'est le corollaire de ça, pour qu'ils se rendent compte que un petit doigt qui bouge au théâtre ça se voit comme un néon plein milieu de la figure, quoi. C'est ça le but. Et donc s'il est maîtrisé, qu'il est beau, c'est réussi. Mais sauf qu'un petit doigt qui bouge au mauvais moment, tout s'écroule. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de travailler avec les trois comédiens, faire en sorte qu'ils comprennent comme ça que chaque geste, non pas est signifiant au sens où il symbolise quelque chose, etc., mais où il contribue à asseoir, comme tu disais Camille, une présence, même quand on se tait. Enfin, il y a des exercices comme ça de Brooke ou de plusieurs metteurs en scène qui expliquent à leurs acteurs qu'on peut très bien rester immobile et pourtant dire des millions de choses. Brooke faisait travailler ses acteurs, je crois, il leur disait « mimez ça, mais vous n'avez pas le droit de bouger, même pas le visage, mais vous me mimez ça ». Et donc voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est rigolo, ça rejoint un peu, je crois, ce que disait Camille.
Et ça montre forcément que dans une pièce où le silence est si important, les corps ils doivent s'exprimer, tout tient un petit doigt, tu disais, tout tient un silence et tout tient aussi à une note de musique, puisque corollaire au silence, il y a le travail de Maxime Baudet qui crée des sortes de paysages sonores, on peut dire ça, c'est très à la mode de dire des choses comme ça en ce moment.
Allons-y, alors c'est bien, moi j'aime
paysages,
bien.
Paysages, oui, en tout cas des ambiances, c'est sûr. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment,
alors est-ce que vous nous pouvez un peu nous parler un petit peu de ce travail?
Parce que, en fait, je crois que ce qui est intéressant justement, ça me vient à l'esprit que maintenant, c'est que on n'arrête pas de parler de paysages, de climat, etc., mais ouais. En fait, c'est parce qu'effectivement, le but de cette pièce, c'est quand même de montrer que ce soit la lumière, la musique, la parole, le silence, etc., tout contribue à un même climat. Enfin, côté synesthésique, quoi, de la chose, mmh. En fait, je crois. Ouais. Et donc, Maxime opère, on peut dire, le même travail que Quentin Chambaud, simplement avec un matériau différent. Mais le résultat est le même.
Quentin Chambaud qui s'occupe de la régie et donc qui s'occupe des lumières.
Voilà, c'est ça.
Donc,
notre créateur lumière.
Vous êtes finalement tous des acteurs pour un même but, créer ce climat dans lequel s'insère Johannes, avec donc le suspense maintenu pour la fin et cette surprise finale. On parlait tout à l'heure à propos du silence de Maurice Maeterlinck, donc ce grand écrivain belge qui a eu le prix Nobel de littérature en 1911, que je ne connaissais pas vraiment bien, donc je le signale pour les auditeurs qui peut-être ne le connaissent pas non plus. Et finalement, j'ai envie de finir par une petite citation d'un titre d'un de ses ouvrages, « Le tragique quotidien ». Est-ce que votre pièce, c'est pas un peu une illustration de ça, et matin et soir, est-ce que c'est pas un peu le tragique quotidien?
C'est complètement ça. Enfin, oui. Je pense que c'est complètement ça.
Oui, c'est absolument ça, oui.
D'où le fait que le pathétique soit ménagé, mais que la pièce n'en demeure pas moins forte.
Absolument.
Le tragique quotidien. Eh bien, on va terminer là-dessus, et vous ferez vous-même votre réponse, chers auditeurs, les 5, 6, 7 et 9 février prochains à 20h30 en Théâtre Cantor, et notez que les 6 et 9 février, l'équipe joue également en matinée à 15h. Alors, 6 représentations au total pour pouvoir te retrouver, Camille, sur scène, aux côtés d'Adrien Sauti et d'Antonio Cuenza Ruiz. L'occasion donc de découvrir, chers auditeurs, un de nos chroniqueurs et un autre de ses talents, à part des critiques dans Spectateur. Mais alors attention, c'est pas parce que Antonio joue dans cette pièce que nous serons particulièrement gentils, ou en tout cas que nous ne serons pas sincères et objectifs. Comptez sur Irène Will et surtout sur Florent là-dessus. Bref, je finis de citer la distribution, puisque j'avais commencé, il n'y a pas que des acteurs, il y a aussi à la mise en scène Quentin Rioual, assisté donc par toi, Thomas, à la musique Maxime Baudet, à la régie Quentin Chambaud, à la scénographie Quentin Gesslan, et enfin Yanif Doron et Paul Ruellan, respectivement dans les rôles de dramaturgie scientifique et artistique. Alors, merci à vous deux d'être venus présenter votre pièce. Merci à Antoine, qui a encore une fois géré avec brio la technique. Et j'en profite d'ailleurs pour souligner ton professionnalisme et ta disponibilité, parce que je t'ai prévenu très tard pour cet enregistrement, et comme d'habitude, tu es là au rendez-vous. Merci donc à lui. Merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous du spectacle vivant sur Transistor. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous présenter un autre spectacle. Prenez soin de vous, pour moi, à découvrir du 6 au 18 février au Théâtre des Marronniers. Vincent Puisségur, le metteur en scène, et Jean Méreux, le musicien, répondront à mes questions. Puis, dans deux semaines, oui, c'est la séquence agenda, le mercredi 13 février, vous pourrez écouter nos critiques de ces deux spectacles, matin et soir, ainsi que Prenez soin de vous, pour moi. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, au cinéma et à l'opéra. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.